89.5 sur la bande FM, www.radiodio.org. Bienvenue sur la fréquence du Chat des Ondes, Radio Dio sur Saint-Étienne et Périphérie. Pour cette émission, ce jeudi 19 janvier, émission mensuelle, c'est une alternance de programmes qui vous sera proposée à la mi-journée chaque jeudi. Et pour ce jour, nous retrouvons un programme réalisé en partenariat avec Radio Dio et le Grémos. Le Grémos, le groupe d'études et de recherche sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois, qui organise tout un week-end particulier. C'est cette fin de semaine. Partenariat oblige, Radio Dio s'associe à cet événement et va vous le présenter en détail durant l'heure à suivre et à passer ensemble. Lionel au micro et en technique. Bonjour à tous et toutes. Un week-end prévu ces 20 et 21 janvier du côté du Cinéma Le France à Saint-Étienne, au 8 rue de la Valse. Un week-end qui sera consacré aux mémoires ouvrières et luttes sociales, avec donc le groupe d'études et de recherche sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois, en partenariat avec les centres de recherche universitaires ISM autour du volet histoire et le centre Max Weber qui lui travaille davantage dans la discipline sociologique et qui organise donc ce week-end sur les mémoires ouvrières, vie, travail et lutte sociale. Ce sont donc ces 20 janvier, vendredi 20 janvier et samedi 21 janvier. Mémoire ouvrière et lutte sociale, il sera très largement question de Manu France, notamment pour la journée du vendredi 20 janvier. Il sera question des mémoires ouvrières autour des femmes de Manu France, notamment. Projection d'entretien réalisée par Marie-Ange Poyet avec d'anciennes salariées de Manu France. Une séance qui sera animée par Michel Zancarini-Fournel, qui est professeur émérite de l'Université Lyon 1, spécialiste de l'histoire sociale du temps présent. Tout cela devrait se réaliser en présence de la réalisatrice, des protagonistes, des films également, bien qu'elles soient aussi âgées, voire très âgées pour certaines d'entre elles, au jour d'aujourd'hui. Ces séances sont gratuites, elles sont proposées ce vendredi 20 à partir de 14h pour une première séance, avant qu'une nouvelle rencontre séance soit proposée à partir de 18h. Dans cette première partie d'émission, je vous propose de revenir effectivement sur cette histoire de Manu France avec un des membres actifs du Grémos, Alban Graziotin, qui est doctorant, chercheur, historien au sein du laboratoire pluridisciplinaire stéphanois ISM, qui est associé également à cet événement, qui est rattaché au CNRS. Alban Graziotin travaille sur le monde ouvrier dans le bassin stéphanois, spécialisé sur cette période qui est la deuxième partie du XXe siècle. Il intervenait à l'occasion d'un colloque consacré à Manu France en novembre dernier. Vous savez que l'année 2011 a été l'année Manu France à Saint-Étienne. Cette année dernière a célébré ce siècle 1885-1985 de cette grande dame qu'est Manu France, qui a retracé donc l'histoire de cette manufacture d'armes et cycles. Je vous propose de retrouver Alban Graziotin, que nous avions rencontré à cette occasion, à l'occasion de ce colloque de novembre dernier, qui va revenir justement sur ce mouvement ouvrier en mouvement, justement, ce monde ouvrier en mouvement, et notamment les grèves et luttes, les manifestations qui ont animé aussi ce mouvement-là et qui ont pu avoir lieu dans les années 70 à 80. C'est d'ici un instant sur le 895 de Dio. C'est le musée d'art et d'industrie à Saint-Étienne qui propose actuellement une exposition visible jusqu'en février prochain. C'était Manu France, un siècle d'innovation, 1885-1985. Une exposition qui a été reconnue d'intérêt national par le ministère de la Culture et de la Communication et qui est une des premières grandes manifestations consacrées à la manufacture française d'armes et cycles de Saint-Étienne, devenue Manu France en 1943, si je ne me trompe. Et à cette occasion, sont prévus différents rendez-vous en exposition, en conférences, débats, ateliers et autres. Alors, il y a notamment un colloque universitaire du 30 novembre au 2 décembre à Saint-Étienne, aux archives départementales de Saint-Étienne. Alban Graziotin est présent avec nous en studio. Bonjour Alban.
Bonjour.
Tu es doctorant, chercheur, historien. Oui. Tu participes à un laboratoire pluridisciplinaire de recherche qui est le laboratoire ISM.
Oui, un laboratoire qui a nouvellement été créé suite à la fusion de deux anciens laboratoires de l'Université de Saint-Étienne, un laboratoire de géographie et un laboratoire d'histoire qui ont fusionné pour unir leurs forces. Et nous avons été regroupés et rattachés à un laboratoire CNRS de Lyon, donc EVS, Environnement, Ville, Société. Donc c'est un laboratoire pluridisciplinaire qui regroupe des géographes et des historiens notamment.
Et tu participes à une recherche sur le monde ouvrier stéphanois, dans le bassin stéphanois, et tu travailles sur une période bien particulière qui est celle de la deuxième partie du XXe siècle. Oui. Donc c'est une thèse qui est en cours
exactement.
Et en préparation. Alors on va parler du monde ouvrier, effectivement, spécifiquement lié à cette manufacture d'Armessig de Saint-Étienne, à Manufrance, puisque tu dois intervenir dans le cadre de ce colloque universitaire autour des conflits à Manufrance sur les années 1970-1980. Alors simplement peut-être l'occasion de rappeler l'intention simplement de ce colloque universitaire dans lequel tu interviens, qui est proposé donc par le laboratoire ISM, EVS dont tu parlais, l'université Jean Monnet aussi qui est associée à ce colloque, qui est intitulé étrangement « Que reste-t-il de nos amours ?»
C'est à la fois de retracer l'histoire de cette entreprise symbolique sur Saint-Étienne, rattacher cette histoire à la grande épopée industrielle en France au XXe siècle et notamment de réfléchir aussi à la question patrimoniale. Donc les deux premières journées sont plutôt axées sur ces questions-là, sur ces thématiques, avec les questions mémorielles et aussi les questions patrimoniales. Donc le patrimoine au sens large, notamment le patrimoine urbain, architectural. Et il y aura des interventions sur le devenir du site Manufrance, au Courfourielle, à quelques encablures d'ici. Les différents intervenants vont essayer de montrer à la fois l'originalité des bâtiments de l'entreprise Manufrance et en même temps montrer quel était son impact et sa place dans la ville de Saint-Étienne et dans le bassin stéphanois plus largement.
Oui, effectivement, un patrimoine architectural fort signé La Mézière, donc que l'on connaît aujourd'hui sur le centre des congrès, là-bas sur le Courfourielle, bien entendu. Simplement, peut-être en quelques petits mots, est-ce que tu pourrais nous rappeler finalement cette grande histoire, dans ces grandes lignes, de cette manufacture française d'armes et cycles de Saint-Étienne ?
Oui.
Née en 1885, donc quasiment un siècle d'existence, elle n'aura pas été centenaire.
Oui, c'est grâce notamment à son directeur, M. Mimard, que cette manufacture a pris une ampleur considérable au début du XXe siècle, avec notamment des grandes innovations à l'époque, notamment l'édition d'un journal, Le Chasseur français, destiné plutôt au monde rural français, et aussi un catalogue de vente par correspondance, grande innovation à l'époque.
Les tarifs albums.
Et Manufrance a pu ainsi développer tout un tas d'activités et de succursales à l'extérieur de Saint-Étienne et a ainsi fait sa renommée et a été connu par une immense majorité de la population française jusqu'au moins dans les années 70.
Et oui, effectivement, une innovation là en matière effective de vente directe aux clients. Alors Étienne Mimard, bien entendu, Pierre Blachon, qui ont popularisé et marqué cette histoire ou l'histoire de cette entreprise. Une usine modèle aussi qui a été basée sur une organisation assez scientifique de la production, de l'administration, de l'image aussi, de la publicité, de la réclame, et inspirée notamment des organisations américaines, notamment le travail d'Henry Ford. Donc un modèle aussi d'excellence en termes d'organisation de travail et en termes de stratégie commerciale.
Oui, totalement. D'excellence, mais avec son envers, aussi des conditions de travail qui pouvaient être assez précaires par moment, surtout à cette époque, à Saint-Étienne, où on n'avait pas encore l'habitude d'avoir une organisation du travail très scientifique. Saint-Étienne était assez caractérisé à l'époque pour un travail à l'ancienne avec un très fort nombre d'ouvriers professionnels. Et c'est vrai que la mise en place d'une organisation scientifique du travail a été très spécifique à Manufrance, qui s'est appuyée notamment dès cette époque, sur le travail des femmes et qui a, de ce fait-là, grâce à une image de la femme pour l'entreprise à l'époque, qui était celle de la minutie, ils ont pu jouer sur ces côtés aussi, différence de sexe, pour mettre en place leur nouvelle stratégie de publicité, de commercialisation, etc.
Oui, et on retrouve d'ailleurs sur l'exposition de très beaux témoignages, puisque le support vidéo et audio est aussi présent, et qui effectivement relate aussi ce travail, cette question-là, en tout cas. Alors, la vieille dame, on va en parler bien entendu, on va parler effectivement de l'envers aussi, du décor en quelque sorte, quoique il fait aussi partie de cette histoire de la Manu. Il y a eu cette grève dès 1937, dès 1937, une grève de 100 jours qui a paralysé l'entreprise. Alors justement, les salariés se rebellaient contre une gestion du personnel qu'ils jugeaient trop autoritaire. Alors, les idées sociales de la jeunesse de Mimar avaient été balayées aussi par sa soif de réussite et puis sa course au profit aussi inéluctable. Alors ça, c'est une période sur laquelle, par contre, tu ne t'es pas arrêté véritablement, en tout cas pour ton intervention à l'occasion de ce colloque universitaire.
Oui, d'autant plus que cette période a été assez bien connue quand même. Un certain nombre d'ouvrages ou d'articles font référence à cette histoire et à ce passé. Et c'est vrai que moi, j'ai préféré m'orienter sur une période qui était beaucoup moins traitée par les historiens, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale. Jean-Michel Stanier reviendra vraiment sur cette grève de 1937 vendredi, juste avant mon intervention. Donc je ne vais pas empiéter sur ses plates-bandes. Je pense qu'il va vous donner les réponses nécessaires pour mieux éclaircir cette période de 1937. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette grève de 1937 a traumatisé Mimar. Et c'est ce qui l'a en partie incité à léguer une partie de ses actions à la municipalité stéphanoise, ce qui va créer un gros problème dans les années 70.
Alors simplement, on va revenir effectivement sur cette période d'après-guerre, parce qu'en fait c'est un tournant dans l'histoire de la manufacture, puisque c'est dès 1944 aussi que la manufacture connaît le décès, la mort d'Étienne Mimar, et c'est à partir du décès de Mimar, et effectivement dans son testament, il institue la ville de Saint-Étienne comme son héritier universel, mais à partir de là, on peut dire que c'est vraiment la dégradation un peu en filigrane et continue de la Manu.
Oui, dégradation. Les archives actuelles les archives de Manu France sont actuellement en train d'être dépouillées par Tony Caporal. Donc, il va pouvoir nous apporter beaucoup plus d'éléments au niveau des chiffres, je pense, comptables, etc. C'est vrai qu'on n'a pas encore une image très, très nette de cette période d'après-guerre, d'autant plus que les discours a posteriori, hein, surtout quand la crise a éclaté dans les années 70, ont beaucoup critiqué la gestion de l'entreprise après la mort de Mimar. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que la municipalité n'avait pas sa main mise sur l'entreprise en tant que telle. Elle était attachée à certains secteurs, notamment le patrimoine social de la manufacture. Et elle avait plus en charge le côté formation. Mais on va voir que dans les années 70, du fait de sa position, la municipalité ne va pas avoir d'autre choix que de prendre position. Et c'est là que la petite histoire rencontre la grande, ou inversement. Et en 77, lorsqu'en mars 1977, la liste d'union de la gauche est élue à Saint-Étienne, dirigée par M. Sangdols, la donne va complètement changer.
Tu vas déjà très vite, Alban, dans l'histoire. Je propose simplement qu'on revienne effectivement sur la période sur laquelle tu as travaillé, qui est 70-80. Mais alors, si je disais qu'effectivement la dégradation pouvait se faire connaître, sentir dès le décès de Mimar, c'est-à-dire dès l'après-guerre, c'est effectivement quand même à partir de 70-72 que là, chaque année, Manu France creuse davantage son déficit. Et c'est à partir de là aussi, eh bien voilà, concomitance de faits, c'est à partir de là aussi que il y a pas mal de mouvements ouvriers.
Oui, exactement. Pour revenir un petit peu sur cette question économique, la gestion de l'entreprise avait été, pour beaucoup de commentateurs de l'époque, notamment les syndicalistes, avait été très lâche. On ne prenait pas les décisions qu'il fallait, on n'avait pas de politique à long terme, on ne faisait plus d'investissement dans les matériaux, dans les machines. Donc le parc commençait à vieillir, donc on devenait moins concurrentiel. D'autant plus qu'il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque, les années 60-70, c'est la grande ouverture au monde de l'économie française, même s'il y a aussi la fin des colonies qui va jouer grandement aussi dans une décrépitude des finances de Manu France. Quoi qu'il en soit, les chiffres qui sont annoncés régulièrement laissent encore planer le doute. On n'est pas sûr vraiment qu'il y a un gros problème, il y a des bénéfices qui sont faits, donc on ne se pose pas trop de questions. Le personnel dirigeant de l'entreprise et aussi rester sur ses positions. Et comme certains disaient à l'époque, des journalistes, Manu France était un peu une vache à lait. Et c'est vraiment à partir de 1970, quand des banques commencent à rentrer dans la gestion de Manu France par différents facteurs au niveau du conseil d'administration, etc., qui essayent de faire des audits internes pour voir un peu l'état des finances, etc., qu'ils se rendent compte qu'il y a des problèmes de déficit dans certains secteurs alors que d'autres gagnent. Mais bon, on continue encore à laisser les choses aller comme elles sont. C'est vraiment à partir de 1975, quand un nouveau PDG est élu par M. Duraf... Là, c'était vraiment un non-sens. Quand un nouveau PDG arrive à la tête de Manu France, qu'on va se rendre compte qu'il y a des grosses difficultés et qu'il faut restructurer l'entreprise. Donc, à l'époque, qui dit restructuration dit généralement licenciement. Donc, concomitance encore des faits, c'est vraiment à partir de cette même moment-là, 1975, que la campagne aussi municipale va rentrer en scène. Et lorsque, en mars 1977, Sangdols est élu, il dit aucun licenciement à Manu France.
Oui.
licenciement qui avait été prévu par le premier plan de M. André Blanc. Donc, ce qui va créer directement une concurrence avec l'ancienne municipalité de droite à Saint-Étienne. Et tout le long du conflit des années 70, on va assister à une passation, en fait. C'est pas de ma faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est pas de ma faute. Où tout le monde se renvoie l'ascenseur un petit peu, ce qui rend la situation beaucoup plus compliquée.
Sangdol, ce qui est largement mis en cause, hein, tout de même, dans la chute de Manu France.
Oui.
Qui était aussi un fief cégétiste.
Donc là, il y a beaucoup de choses à dire, hein, sur cette question de l'organisation du travail et de la place de la CGT au sein de Manu France. Les quelques témoignages que j'ai pu recueillir et les archives que j'ai pu consulter m'éclairent beaucoup sur cette question, d'autant plus que jusqu'à aujourd'hui, à part une étude qui date de 1979, qui avait été le fait d'un politiste, Pierre Kukavka, il n'y a eu aucune étude vraiment par un scientifique, on va dire, indépendant. Toutes les traces qu'on a, c'est des traces de militants. Donc, ce qui est bien sûr non négligeable et qui est toujours très intéressant à étudier, mais il faut aussi regarder un petit peu de l'autre côté de la barrière, comment on voyait les choses, et aussi d'un autre côté, aussi comment la police, elle, sentait un peu cette ambiance à Manu France. Donc, c'est vrai que là, pour l'instant, j'essaye d'un peu.
Tu es encore dans un travail de recoupement, de collecte.
Bien sûr.
Alors, c'est intéressant de dire aussi à partir de quel matériau tu travailles. Mmh. Parce que, effectivement, tu t'appuies à la fois sur les archives départementales, municipales, les archives des organisations syndicales, les archives de la police. Comment tu travailles, effectivement, et comment tu t'appuies sur ces différentes collectes ?
On a de la chance à Saint-Étienne d'avoir quand même deux centres d'histoire militant, on va dire le CEDMO 42 dont vous avez parlé tout à l'heure, et l'IHS, donc l'Institut d'Histoire du Travail, l'Institut d'Histoire Sociale de Saint-Étienne, la Bourse du Travail, qui est rattachée directement à la CGT, et qui, eux, ont fait un énorme travail de collecte pour récupérer tous les documents militants des organisations, de militants importants ou de partis politiques. Donc, grâce à eux, j'ai réussi à avoir accès à un nombre conséquent d'archives. Archives, donc, essentiellement syndicales, que j'ai pu recouper grâce aux archives départementales de la Loire, aux archives du cabinet du préfet. Archives qui, en fait, sont les rapports quotidiens des renseignements généraux de Saint-Étienne. Donc, elles me donnent un autre aperçu de cette réalité-là. Je peux les recroiser, en plus, avec la presse de l'époque. Donc, ce qui me donne quand même un panel assez conséquent de différents points de vue sur la mobilisation, sur les conséquences, sur les causes de cette crise de Manu France. Donc, maintenant, il faut arriver à démêler tout cela. Moi, je suis beaucoup plus partisan maintenant en disant qu'on ne peut pas trouver un facteur prédominant. Qu'il serait difficile maintenant de juger a posteriori en disant oui, c'est vraiment à cause de ça qu'il y a eu une telle décrépitude de Manu France, ou c'est à cause des syndicats, par exemple. Chacun avait son point de vue à l'époque, et aujourd'hui encore, tous les débats de société nous montrent qu'on a différents points de vue sur les événements en cours. Donc, je pense que mon travail, c'est plus de montrer cette diversité de points de vue qu'il pouvait y avoir à l'époque, plutôt que d'essayer d'apporter une réponse définie et stable. On pourra toujours me contredire, donc je ne préfère pas.
Oui, mais alors justement, parce que tu essayes d'objectiver un petit peu à la fois le mouvement, les mouvements, c'est cette crise, qu'est-ce que, néanmoins, là, dans ce travail de tentative de démêlage, quelle est un petit peu ta position et ton appréciation, appréhension des choses ?
Donc, mon appréhension, déjà, c'est d'arriver à faire la part des choses dans ces 5 ou 6 années de lutte. Mon intervention de vendredi s'arrête en 1981, j'explique pourquoi.
Voilà, parce que donc tu vas de 70 à 80, 80 qui est la liquidation
81,
ouais. 80 des biens et des sociétés. Quoi.
Exactement, mais avec une reprise en forme de scope.
De scope, mais là voilà. Tu n'abordes pas cette
partie. Je n'aborde pas parce que c'est vraiment une tâche, une partie à part entière qui aurait mérité vraiment une intervention spécifique sur ce sujet. Je me réserve le droit de travailler ultérieurement dessus, mais j'ai voulu m'arrêter à 1981 parce que jusqu'en 1981, on a encore la plupart des mêmes acteurs qui sont réunis autour de ce conflit. Après 1981, avec la création de la SCOP, on entre dans un autre registre et je n'y reviens pas. Donc jusqu'en 1981, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, c'est une lutte très très longue. Par rapport à toutes les autres luttes que j'ai pu étudier dans le bassin à la même période, cette lutte dure plus de 4 années, du moins cette lutte-crise. Hein, les deux sont étroitement liés ici. Donc c'est une lutte très très longue qu'il faut mener. Il n'y a pas spécialement d'arrêt de travail régulièrement. Donc le travail continue de se faire pendant qu'il y a des négociations sur les plans sociaux qui sont prévus, sur les nouveaux plans qui sont en projet. Donc il y a tout un travail en amont qui est fait par les représentants syndicaux et par le comité d'entreprise de Manu France, ce qui fait que on a des dizaines et des dizaines de pages de compte-rendu de comité d'entreprise, de compte-rendu de renseignements généraux sur ces mêmes comités d'entreprise, etc. Donc il faut arriver un peu à démêler tout ça. Et c'est très très long à vouloir résumer en quelques minutes. Donc moi, pour l'instant, j'en viens à l'idée qu'il y a quand même deux phases. On peut découper cette crise de Manufrance en six grandes parties, on va dire six grandes périodes, qui correspondent chaque fois à l'arrivée d'un nouveau président à la tête
de PDG.
Voilà. Eh oui. Parce que chaque fois, il revient avec un nouveau plan, etc. Donc voilà, ça entraîne les conséquences.
Rappelle combien se sont succédés dans ces dernières phases.
Il y en a eu plus de... Il y en a eu six ou sept. C'était compliqué, on parlait de valse des PDG. Il y en a vraiment eu trois importants... Qui ont donné beaucoup d'importance à l'affaire, mais c'est quelque chose de très difficile à vouloir saisir. Donc là, ça reste très événementiel. Voilà, donc je vais y revenir dans mon intervention, mais je ne vais pas insister là-dessus parce qu'on pourrait aller très très loin. Donc moi, j'essaie de repérer dans ces six sous-périodes en fait, l'attitude des ouvriers et des ouvrières et de l'ensemble du personnel en général de l'entreprise. Donc ce que je me rends compte, c'est que jusque vers fin 1978, il y a une assez grosse unanimité de la part des salariés de Manufrance de lutter. Après, ça c'est mon sentiment, d'après les archives que j'ai pu dépouiller, je me rends compte qu'à partir de fin 78, début 79, donc avec l'arrivée de M. Mestri à la présidence, et avec cette durée de crise qui s'allonge, j'ai le sentiment que beaucoup commencent à baisser les bras, et que la lutte le fait de plus en plus des militants, et d'une partie du personnel, celui qui est le plus directement concerné, donc les ouvriers qui étaient notamment à la DPM, au secteur fabrication.
Alors c'est étonnant ce que tu dis, parce qu'à l'inverse, dans les témoignages qu'on peut voir dans l'exposition, les ouvriers et ouvrières témoignent en disant qu'ils se sentaient finalement tout-puissants, intouchables.
Oui, jusqu'à ce que les licenciements progressifs montrent qu'en fait, ils n'étaient pas intouchables. Manufrance, vers 1975-1976, c'est plus de 3000 personnes. Fin 1980, juste avant la création de la SCOP, on en est réduit à 1000-1500. Donc il y a déjà eu une grosse déconfiture de licenciements. Les gens réagissent en voyant ces licenciements. Se rendent compte, au bout d'un moment, peut-être qu'on n'a pas les possibilités de lutter comme on le voulait. Après, il y a d'autres questions qui rentrent en jeu. Il y a la façon dont les syndicats ont mené la lutte. Les débats qu'il y a pu avoir entre les syndicats et surtout l'accaparement de l'affaire Manufrance au niveau des pouvoirs publics et au niveau de la société française quasiment. Dès 76-77, dès que la municipalité de gauche arrive au pouvoir, il faut se rappeler qu'en 74, Valéry Giscard d'Estaing est élu, c'est un clivage gauche-droite qui se profile et Manufrance va pouvoir servir aussi bien à droite qu'à gauche de prétexte à débats idéologiques.
Et oui, attention, c'est que effectivement Giscard d'Estaing, 74, Durafour... était ministre du Travail, voilà. Sous Giscard.
Donc il y a tout un imbroglio politique derrière l'affaire Manufrance qui lui a donné cette lettre de noblesse, si je peux dire. Mais à l'arrivée, on s'est plus arrêté à cette dimension-là du conflit, donc les implications qu'il pouvait y avoir au plan politique et au niveau national. Et on a beaucoup moins regardé, de fait, les conséquences réelles et l'action concrète des travailleurs sur leur lieu de travail pendant cette période-là. Donc moi, c'est ce que j'ai essayé d'étudier dans ma communication. C'est assez dur à mettre en avant, je pense, parce que c'est pas ce qu'on attend, des fois, de la part d'un historien. On voudrait que l'historien parle de choses plus grandes ou plus globales, qu'il parle plus aux gens. Moi, j'ai voulu m'attaquer par un autre angle, à une autre réalité du conflit Manufrance. Le travail de Pierre Kukavka, dont je parlais tout à l'heure, qui s'arrête en 1979 à l'époque, lui, il vit très bien cet imbroglio politique. Mais à côté de ça, il y a une autre réalité. Donc moi, j'ai essayé de montrer aussi l'autre façon de voir les choses, mais ce qui ne veut pas dire que l'une est discréditée au profit de l'autre ou inversement. Chacune correspond à un régime de la lutte, si je peux dire.
Oui, simplement, la Manu a terminé... au moment de la liquidation, il y avait combien d'ouvriers? Après ces vagues successives de licenciements, au moment de la liquidation,
il y avait environ 1000 ouvriers.
1000 ouvriers.
Environ 1000 ouvriers. Le personnel est un peu plus important.
Parce qu'il y a une première vague où il y avait eu une sorte de poire coupée en deux, 1300 licenciements pour le maintien de 1300 en place.
Mais ça a été très difficile en fait. Ça a été mise en place aussi, ça a été beaucoup moins radical que les chiffres pouvaient le dire. Il y a eu beaucoup de tractations au niveau des syndicats, du comité d'entreprise qui refusaient systématiquement ou dans une certaine mesure parce qu'il y avait des plans de reclassement derrière qui étaient faits. Donc, et en même temps, les syndicats avaient mis en place une structure pérenne qui était un comité de chômeurs ou d'anciens licenciés de Manufrance. Donc il y avait encore une volonté de les intégrer, de les garder dans l'entreprise d'une certaine façon, de ne pas les laisser de côté, de leur montrer qu'on voulait se battre pour eux aussi, pour les réintégrer au maximum. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'après, par contre, oui, il n'y avait plus que 600 personnes au moment de la constitution de la SCOP. Donc là, on se rend compte qu'en 4 ans, il y a eu un écrémage des effectifs phénoménal. Donc je ne suis pas sûr finalement que la lutte qui a été menée, c'est aucun, je ne veux pas porter de jugement sur la lutte ou quoi que ce soit, mais je ne suis pas sûr que la lutte telle qu'elle a été menée a pu profiter peut-être à l'ensemble des travailleurs, mais c'est pas de la faute non plus du monde syndical, c'est qu'aussi, faut se rendre compte de la réalité de l'époque, hein. On est en pleine crise aussi des années 70, il y a des restructurations à tous les niveaux, et l'intérêt pour beaucoup d'entreprises, c'est de rééclater les branches, et Manu France était une entreprise compliquée, avec en gros trois têtes, hein, un département fabrication, un département commercialisation, un département édition, et chacun voulait garder la meilleure part. Hein. Et c'est vrai que les syndicats, eux, ont voulu mettre en avant le côté social et les travailleurs surtout.
Oui. Alors simplement, sur la fin de cette histoire, avant la liquidation, c'est quand même l'arrivée de Tapie aussi.
Oui.
Alors qu'est-ce qui... Parce qu'il n'a pas réussi à éponger toutes les dettes, toutes les créances. Malgré les ventes successives, hein, finalement aussi, de pas mal de filières, justement. Qu'est-ce qu'il en est aussi un peu de son intervention ?
Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Tapie, lui, il a pris la tête de l'ancienne société Manu France.
Oui, pas oublier, c'est alors il faut faire ce petit rappel, c'est effectivement, parce qu'il y a eu un premier redressement judiciaire avec la Manu et la Société Nouvelle, en fait.
Société Nouvelle qui a été montée par René Mestri.
Donc ça, c'était en 77.
Voilà, par là. Après, quand Tapie arrive, lui, l'ancienne société Manu France existe toujours. Sauf qu'il y a une autre partie qui a été... C'est un nombril juridique.
La Société Nouvelle, elle balaye tout le passif.
Voilà.
Donc elle permet normalement de pouvoir rebondir.
Voilà, exactement. Mais l'ancienne société a quand même un droit de regard et il y a encore des questions pécuniaires qui sont importantes. Donc M. Tapie, quand il arrive, lui, est président de cette ancienne société Manu France. Et avec les problèmes que connaît la nouvelle société Manu France, lui se dit ben, ça peut être le bon moment pour restructurer. Il joue un double jeu certainement aussi à son niveau. Il veut vendre certaines parties. Il commence ces ventes-là. Donc il y a une grosse bataille juridique qui se met en avant. Les syndicats, eux, vont saisir le tribunal de commerce à leur tour. Donc il y a une bataille juridique importante qui fait que aussi de fait, les salariés de Manu France ne peuvent pas directement agir de fait parce que cette bataille juridique se fait d'un côté en coulisses. Quoi qu'il en soit, Tapie, même pour les renseignements généraux de l'époque, avait a priori la volonté de démanteler Manu France, ça c'est certain.
Oui, alors c'est intéressant ça, ce que tu dis par rapport au RG. Qu'est-ce que t'apportent ces archives-là ? Qu'est-ce qu'elles disent ?
Elles disent beaucoup de choses à leur façon. Donc le travail de l'historien aussi, c'est de recouper un peu toutes les informations, de faire attention de qui parle à chaque fois. Hein. Donc un officier des renseignements généraux n'aura pas les mêmes objectifs quand il va couvrir une affaire qu'un militant syndicaliste, ou etc. Ce qui leur importe le plus aux renseignements généraux, c'est de comprendre l'atmosphère générale, d'expliquer les problèmes particuliers et d'anticiper au plus possible les actions et les réactions des ouvriers et des militants syndicalistes, pour ce qui concerne quand les renseignements généraux couvrent des conflits. Hein. Donc moi, ce qu'ils m'apportent, c'est qu'ils sont là aussi au quotidien. Donc ils me donnent aussi un autre pendant de l'approche que les syndicats ont. Quand on lit les tracts de l'époque, on a une certaine image du conflit. Quand on lit les rapports des renseignements généraux, on en a une autre image. Donc à l'arrivée, c'est arrivé de coupler un peu tous ces deux moments, mais c'est vraiment deux points de vue différents. Donc, en gros, les renseignements généraux m'apportent un autre point de vue, qui est le point de vue d'officiers de police qui veulent préserver la paix sociale, qui veulent informer leur supérieur, donc le préfet ici, et qui veulent tout simplement prendre en considération l'ensemble des problèmes qu'ils considèrent comme eux, comme principaux.
Alors simplement, on le rappelle, 1980, après le passage de 6-7 PDG, c'est la faillite de Manu France. 80-85, liquidation totale. Et c'est la SCOP, effectivement, qui, donc Société Coopérative de Production,
ouvrière de production et de distribution,
qui a tenté de reprendre la fabrication. Et c'est en cela aussi que les ouvriers et ouvrières qui avaient peut-être réinjecté leur indemnité dans cette coopérative avaient tout espoir de que la manufacture continue, quoi, finalement, oui. que Manu France... soit pérennisée, mais finalement elle est liquidée intégralement en 1985. 86, c'est la collecte du patrimoine de l'entreprise par le musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne. 88, le rachat des marques, puisque Manu France existe toujours. Le rachat par Jacques Tavistian. L'exposition est, elle, toujours visible jusqu'en février prochain au musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne. Et puis, on rappelle justement une autre exposition, photo justement, La vieille dame, dernier acte, derniers actes, même au pluriel. Un regard, celui non pas d'un historien, mais historien photographe, il y participe et y contribue très largement. C'est le regard d'un artiste reporter, celui de Roger Ozelzak, qui a suivi finalement les dernières années de conflit des employés avant fermeture définitive de la manufacture. Et oui, Roger Ozelzak, cité à l'instant, qui fut le seul photographe à avoir été amené par les ouvriers de Manu France à suivre intégralement donc, le long conflit qui a précédé la fermeture de l'entreprise, moment de lutte, scène d'occupation, temps de pause, clichés graves ou plus légers. C'est toute cette histoire qui se déroule au fil de cette exposition. Et c'est toute une époque maintenant révolue, la vieille dame, derniers actes, les derniers actes, un regard. Roger Ozelzak, photographe, c'est une expo qui est visible dans l'agglomération stéphanoise jusqu'à l'été prochain. Elle est actuellement installée du côté de la vallée du Gier à Saint-Chamond, plus précisément jusqu'au 25 janvier prochain à la médiathèque municipale Louise Labbé de Saint-Chamond, avant de s'installer ensuite du 2 février au 27 février, donc tout le mois de février prochain, ensuite à la médiathèque municipale Jules Verne de la Ricamarie. Alban Graillotin, à l'instant, pour cette rediffusion, cette interview que nous avions réalisée en novembre dernier à l'occasion de ce colloque qui se tenait à Saint-Étienne sur Manu France. Cette expo aussi toujours visible du côté du musée d'art et d'industrie, effectivement, Alban Graillotin, doctorant, chercheur, historien au sein du laboratoire pluridisciplinaire stéphanois ISM, rattaché au CNRS. Un historien qui est également rattaché au GREMOS, ce groupe d'études et de recherche sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois, qui est une équipe pluridisciplinaire informelle qui comprend des historiens, certes, mais aussi des sociologues, des archivistes, des géographes, qui a été fondée en novembre 2007 et qui propose cette fin de semaine, ce week-end, c'est vendredi 20 et samedi 21 janvier, tout un ensemble de manifestations autour de la mémoire, des mémoires ouvrières et lutte sociale. C'est au cinéma Le France et les mémoires ouvrières, femmes de Manu France, je vous le disais, c'est une projection de 5 entretiens réalisés par Marie-Ange Poyer qui sera proposée autour d'anciennes donc salariées de Manu France en 2 séances vendredi à 14 et 18h. Le samedi 21 janvier sera consacré aux luttes sociales, histoire et actualité avec à nouveau à 18h, parce que cette soirée se déroulera de 18 à 23h ce samedi 21 janvier, portrait en début de soirée de Jeannette Ravachol, toujours réalisé par Marie-Ange Poyet. Jeannette Ravachol, qui est une ancienne déléguée CFDT, donc dans ses riches heures de Manu France. Avant que la soirée se poursuive, toujours autour de cette question des luttes sociales, histoire et actualité, histoire toujours, puisque se poursuivra la soirée autour notamment de la grève des mineurs de 1948, et c'est ce dont nous allons parler d'ici un instant. Avec un entretien là aussi qui avait été réalisé au mois d'octobre dernier à l'occasion de la parution du livre 1948, Les mineurs stéphanois en grève, dont va nous parler en long, large et travers Jean-Michel Steiner, qui fait partie des co-auteurs de cet ouvrage. L'interview débute par une exposition, puisque c'est aussi une expo itinérante sur laquelle s'appuie ce travail. C'est un ensemble aussi photographique, notamment autour des photos de Léon Leponce, dont nous allons aussi parler durant cet entretien. Voilà, ouverture de cet entretien autour de cette exposition de la grève des mineurs de 48, qui a été installée à plusieurs reprises à Saint-Étienne, avant de parler effectivement de cette grève en tant que telle, et aussi donc de cet ouvrage lancé en octobre dernier. C'est d'ici un instant sur le 895 de Dieu.
Il s'agit là de l'exposition qu'on a accrochée en 2008, sous le péristyle de la Bourse du Travail. Donc, c'est une exposition qui est en fait à l'origine de ce travail, puisque après l'avoir accroché, on a eu droit à des remarques sur des erreurs, sur des incertitudes. Et donc on s'est dit il faut vérifier, il faut faire des recherches sur ces photographies. Et on a été conduit de fil en aiguille, d'une part à explorer le fond Léon Leponce, qui est conservé aux archives municipales de Saint-Étienne, dont sont extraits ces 18 photographies, et puis à consulter des archives, des journaux, pour écrire l'histoire de la grève. Et de 18 photographies, on est arrivé à 123 photographies, Donc certaines sont dans le fond, il y en a 85 à peu près qui sont dans le fond lui-même, donc qui fournissent le cœur de l'ouvrage. Et puis il y en a une quarantaine dont on n'a pas retrouvé les plaques originales, mais que l'on a photographiées depuis les organes de presse, donc notamment le Patriote, dont on sait qu'ils sont de Léon Le Ponce, et qu'ils nous ont permis, ces photographies, de retracer les 7 semaines de grève et ses conséquences, puisqu'on va jusqu'en 1951, c'est-à-dire aux funérailles du second mineur qui est mort des suites de ses blessures à Campfort.
On va rentrer un petit peu dans le détail aussi de cette grève, bien entendu. Simplement, dans un premier temps, quand vous dites « on », il s'agit de qui ? Qui a l'initiative à la fois du travail, dans un premier temps, de l'exposition qui avait été mise en place et qui est à nouveau installée là et visible, et à la fois sur le travail aussi de publication qui a découlé de ce travail-là ?
L'initiative, c'est moi-même, avec Corinne Porte, donc Jean-Michel Stenner, historien, chercheur à l'Université de Saint-Étienne et enseignant au lycée Jean Monnet. Et avec Corinne Porte, donc, dans l'optique de préparer le 60e anniversaire de cet événement, c'est-à-dire la fusillade de Campfort le 22 octobre 1948. Et donc l'idée est venue de partir des photographies que Corinne Porte conservait dans le fond des archives municipales. Et puis, dans ce cadre-là, nous étions au moment où, où a été créé le GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du mouvement ouvrier stéphanois. Et donc, en partant sur cette double idée, les photographies et la mine, donc j'ai demandé à deux collègues que je connaissais bien, donc Jean-Claude Monneret, qui est spécialiste de l'image, qui avait été enseignant au lycée Jean Monnet, et Maurice Bedouin, qui est spécialiste de la mine. Je leur ai demandé donc de participer à ce travail, et c'est comme ça qu'ils se sont associés à la publication du livre qui paraît aujourd'hui.
1948, les mineurs stéphanois en grève. Donc effectivement, un ouvrage réalisé par une équipe pluridisciplinaire après ce travail d'enquête depuis l'exposition. Ça fait 3 ans que vous travaillez à cet ouvrage avant sa publication là, à laquelle on assiste aujourd'hui. Simplement, autre temps de présentation aussi peut-être, c'est la présentation de Léon Le Ponce. En fait, puisque vous êtes basé quand même sur ce travail d'image, ça serait bien de faire un petit rappel aussi de qui était Léon Le Ponce, oui, pour une recontextualisation aussi de sa participation sur le mouvement de l'époque.
Donc Léon Le Ponce, dont on a une présentation rapide dans l'exposition, était un photographe, reporter photographe, donc qui commence sa carrière à la fin des années 1920 à Saint-Étienne. Il travaille d'abord dans un studio où il fait des photographies qu'on imagine d'un photographe en studio, photographies d'individus, de personnalités. Et puis très vite, il est recruté par la Tribune républicaine, qui est à l'époque le journal du maire Louis Soulier. Et donc il commence à faire des photographies d'actualité. Ce sont souvent, il faut dire, des photographies soit de matchs de football, soit de compétitions de vélo, et quelquefois des photographies de manifestations. En 1944, la Tribune disparaît et donc elle est remplacée par 3 journaux, dont Le Patriote, qui est un journal proche du Parti communiste français. Et Le Ponce travaille pour ce journal jusqu'en 1956. Donc c'est à ce titre qu'il a été utilisé par Le Patriote pour faire des photographies de ces événements de 1948. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 types de photographies. Il y a des photographies d'avant la grève ou de loin après la grève qui correspondent plus à son tempérament, c'est-à-dire des photographies posées, comme par exemple ici le piquet de grève à la Béroudière. Donc ça correspond plus à son tempérament, je dirais, de photographe classique. Et puis les photographies d'obsèques, comme celle de Barbier ici en le 25 octobre 1948. Et puis, comme les événements se sont accélérés et ont débouché sur des affrontements, eh bien, on voit Le Ponce devenir un vrai reporter photographe dans le style de Capa ou des photographes
sur le terrain,
de
live, dans l'action.
Sur le terrain, dans l'action, comme ici au moment du transport des blessés après la fusillade de Campfort. Et même, il s'est retrouvé à certains moments, on le voit ici, dans la fusillade de Campfort, pas directement en première ligne, mais on voit qu'il n'est pas très très loin des forces de police qui vont procéder à la fusillade.
Le défilé d'une ampleur remarquable, tous rassemblés devant le monument, on y brûla les lettres de menace que les patrons nous avaient envoyées. On y brûla les lettres de menace que les patrons nous avaient envoyées. Et tous unis dans un élan sublime, plein de colère et d'indignation, criant devant ces mesures scélérates, leur volonté de rester des mineurs. Criant devant ces mesures scélérates, leur volonté de rester des mineurs. Pour un mineur, c'est toujours toi qui trinques, c'est toi qu'on brime, qu'on presse comme un citron. Mais aujourd'hui, il faut que cela cesse, voilà pourquoi nous occupons le front. Mais aujourd'hui, il faut que cela cesse, voilà pourquoi nous occupons le front. Oui, notre lutte a été un succès, au fond, au jour, poursuivons le combat. Unissons-nous comme au fond de la mine, alors ainsi nous retournerons mineurs. Unissons-nous comme au fond de la mine, alors ainsi nous retournerons mineurs.
Oui, alors on voit la fusillade, guérilla même, c'est le commentaire qui est indiqué sur ce cliché-là. Des armes saisies par les mineurs, donc bon, il faudrait quand même rappeler un petit peu ce qui s'est passé en octobre 48 et sur quoi effectivement là on est un peu sur la fin du mouvement, sur quoi aussi a débouché le mouvement. Donc recontexte aussi historique à nouveau sur cette grève.
Alors c'est sûr que c'est un type de grève qu'on n'a pas l'habitude de, on n'a plus l'habitude de voir ni en France ni dans la région. Donc c'est une grève dure, qui est dure par les décisions qui sont prises par le gouvernement, qui en septembre 1948 a décidé de faire une atteinte très très forte au statut des mineurs qui avait été voté 2 ans auparavant, qui a décidé de licencier presque un tiers des mineurs, qui a bloqué les salaires, qui a remis en cause la gestion des caisses de retraite par les mineurs. Donc il y a vraiment une attaque convergente, je dirais presque de type libéral, on sait bien ce que c'est aujourd'hui, qui a suscité la colère des mineurs. Et cette profession qui était importante à l'époque, puisque 80% pratiquement de l'énergie française provenait de la mine, bon, s'est mis en grève à partir du 4 octobre, c'est-à-dire un moment où normalement les particuliers, les entreprises reconstituent leur stock. Donc en pensant que la grève allait être rapide et triomphale. Puis, en réalité, le gouvernement a vraiment cherché le bras de fer et il y a eu une escalade. Progressive occupation des puits par la troupe qui a suscité la colère réciproque des ouvriers et donc une attaque ciblée particulièrement sur Saint-Étienne à partir du 17 octobre 1948 pour une raison technique, c'est que les mineurs ont décidé de suspendre les services de sécurité. Et qu'à Saint-Étienne, vu la structure du bassin, vu la structure géologique du bassin, c'était à terme, de l'ordre de 24 heures, l'ennoiement des puits. Et donc ça, c'est le prétexte pour envoyer la troupe, pas discuter, mais envoyer la troupe, et frapper très fort sur le bassin stéphanois. Et c'était aussi, je pense que l'attaque du bassin stéphanois a contribué à désarçonner les principaux bassins, et notamment le bassin du Nord, où à partir de ce moment-là, la grève va traîner en longueur, mais sera beaucoup moins agressive. Il y a quand même une interrogation à partir de ce moment-là du côté des mineurs pour savoir jusqu'où on va, est-ce que le mouvement peut continuer comme ça. Donc une grève qui s'inscrit dans ce contexte de lutte sociale. C'est une lutte sociale. On ne dira jamais qu'une grève, c'est d'abord une grève politique. C'est tout, les ouvriers ne partent pas en grève pour des raisons politiques. Mais les contextes politiques sont là parce que, justement, on est dans un contexte d'affrontement entre un gouvernement qui a pris un virage à droite et un parti communiste qui a pris un virage à gauche. Donc on est dans le démarrage de la guerre froide. Et on est dans le contexte international. Ne jamais oublier que la grève de 48, elle se place en plein pendant le blocus de Berlin. C'est-à-dire à un moment où toute l'Europe pense qu'on risque de basculer dans la Troisième Guerre mondiale. Ça, c'est très important. Voilà, donc pour retracer le contexte. Et finalement, cette grève s'est traduite pour les mineurs par un échec. Un échec, je dirais, d'abord économique. Hein, ils n'ont rien obtenu, ou quelques broutilles. Ensuite, un échec moral, parce que perdre une grève, et surtout dans ces conditions avec deux camarades qui sont tués, c'est dramatique. Donc ça a laissé des traces très profondes dans la mémoire collective stéphanoise, mais dans les mémoires ouvrières. Parce que dans les autres mémoires, c'est un événement qui a été un peu évacué.
Cette grève, elle a duré, vous le disiez, combien ?
7 semaines.
7 semaines. Une mobilisation de quel ordre ?
Mobilisation, le blocage des puits est total. Total, à l'exception peut-être de quelques puits du côté de la Talaudière, qui sont plutôt où les mineurs sont plus marqués par le catholicisme et plus proches de la CFTC. C'est vrai que c'est d'abord une grève de CGT, c'est sûr. La CFTC a suivi, mais au départ, la CFTC pensait que ce serait une grève de 48 heures. Et quand elle a vu la volonté de la CGT de faire durer le mouvement, elle n'a pas suivi. Mais les puits étaient occupés et il n'a pas été question de revenir là-dessus jusqu'à l'affrontement.
D'accord. Quand on parle justement du bassin, là, on est sur quel site donc alors, fortement mobilisé, effectivement, parce qu'il y a le puits Courriot qu'on voit un peu sur les clichés, mais il y a d'autres, d'autres sites.
Ce qui est intéressant, effectivement, c'est Courriot et les autres puits. Parce que Courriot a une espèce d'abcès de fixation. C'est un puits qui a une valeur de symbole. Et donc, on va y voir construire plusieurs barricades. Il y a plusieurs meetings qui ont lieu à ce moment-là. On a même vu des barrages. On a une photo où on montre que les mineurs ont mis des clous sur le pont de l'appareil pour éviter que les forces de police passent. Donc, c'est vraiment le lieu où il y a la concentration de la tension. Et en réalité, il ne se passera rien à Courriot. Courriot est tombé le 29 octobre. Presque comme un fruit mûr. En fait, la stratégie des forces de l'ordre, la stratégie du préfet, ça a été d'attaquer par les périphéries. Donc la première, c'est le Puy Villiers. Il y a des événements, les trois photographies qui sont là, montrées au Puy Villiers. Parce que Villiers, c'était, d'un point de vue technique, le puits le plus menacé. Tout le secteur est, c'est là que les couches affleuraient le plus et où l'inondation était la plus rapide. Donc, et ensuite, c'est la Roche-la-Molière. Et là, après Roche-la-Molière, les forces de l'ordre ont l'impression qu'elles ont obtenu gain de cause, que les mineurs vont lâcher. Et d'où l'intérêt des parlements, de la discussion pardon, devant la Bérodière, parce que là, il y a une piquet de grève extrêmement motivée qui va faire reculer les forces de l'ordre. Et du coup, les autres puits, notamment les puits de Londaine, le puits Pigeot et le puits Camfort vont tenir. Et quand les forces de l'ordre arrivent, donc dans ce mouvement qui est un mouvement tournant, qui part de l'Est pour aller ensuite vers l'Ouest, eh bien, à ce moment-là, on a l'affrontement des 21 et 22 octobre 1948. Il y a une question stratégique. D'un point de vue des forces de l'ordre et du pouvoir, c'est intéressant de voir l'aspect stratégique. C'est une opération qui a été bien pensée, mais peut-être en évacuant la dimension personnelle des ouvriers qui se battaient pour la défense de leur puits et surtout pour la défense de leur travail.
Dès que l'aube sur la colline disperse sa claire couleur, chantant le héros de la mine, d'un pas léger marche au labeur. Pour le bonheur de sa famille, pour lui gagner un peu de pain, il va, tandis qu'un soleil brille, vers le danger avec entrain. Honneur à toi, mineur, et gloire à ton labeur. Toi qui sans murmurer travaille sans relâche, toi qui malgré l'effort mène ta lourde tâche, honneur à toi mineur, toi qui lutte sans peur, honneur à ton métier, honneur à ta vaillance, sois fier de tes combats qui font vivre la France.
Donc le mouvement se solde sur Londaine,
avec deux jours d'affrontement dur, quand on parle de guérilla, et là on voit les images, les mineurs étaient armés, et il y a eu des échanges de tirs entre forces de l'ordre
Ils étaient armés de ce qu'on appelle des pesettes, c'est-à-dire des débris des chutes de produits métallurgiques. Ils étaient armés de quelquefois de manches de pioche, de barres de fer. Les mineurs maghrébins étaient armés de frondes, mais pas d'armes à feu. Les armes à feu, elles étaient du côté du pouvoir. Par contre, une pesette lancée avec une fronde, quand vous la recevez en pleine tête, ça fait des dégâts quand même.
Et donc,
il y a des blessés du côté des forces de l'ordre.
D'accord. Et de nombreux blessés du côté des ouvriers, bien sûr.
Oui, il y en a eu beaucoup.
Et surtout
d'arrestations. D'accord. Plus de 400 mineurs qui ont été arrêtés.
Là, on voit une photo aussi d'une sortie de prison, justement, en prison.
Baritan, là, qui est ici, est resté en prison 5 mois. La prison de Bellevue, qui a aujourd'hui disparu, mais qui est juste un peu plus haut ici, dans la Grande Rue.
Oui, parce qu'on voit, c'est encore une sortie ici, là, un jour de solidarité.
Oui.
C'est le même cliché, c'est le même jour, en fait.
Là, on est le jour des obsèques.
Je me trompe de commentaire.
C'est le jour des obsèques d'Antonin Barbier. Et puis à droite, donc, c'est la libération de Gabriel Maritan. Mais c'est le 4 mai 1949.
D'accord. Gabriel Maritan qui était ?
Alors qui était délégué mineur, on le voit sur cette photo là-bas. C'est lui qui parle avec le commissaire de police. Et donc qui était aussi musicien et donc qui a composé la célèbre photo « Salut à toi mineur de France », la célèbre chanson « Salut à toi mineur de France ».
Les deux ouvriers qui ont été blessés et qui ont été tués, en fait.
C'est Antonin Barbier. On n'a pas de photo de lui, si ce n'est sur son lit de mort, et encore, on ne voit pas son visage. Donc, nous, on a publié une photo d'un tract qui le montre. Et puis, le deuxième, c'est Marcel Goyot. Donc, Barbier est mort le soir même, et Goyot est mort 3 ans après. Mais il avait reçu plus d'une vingtaine de balles, dont une qui lui avait traversé la vessie. Donc, c'est vrai que ça laisse pas beaucoup de chance. Quand même.
D'accord. Simplement pour conclure, quasiment, juste vous avez évoqué les témoignages de survivants ou de leurs familles qui étaient déjà intervenus lors de la première accrochage, la première exposition, suite à quelques erreurs. C'est à nouveau de la manière dont vous avez procédé pour la publication de l'ouvrage.
Je dirais que les témoins qu'on utilise ici, qu'on a fait parler, ils sont venus après l'exposition. Ça a été l'intérêt de l'exposition, justement, parce qu'elle a suscité c'était notre objectif, elle a suscité un mouvement de témoignages qui nous a permis, après, de recoupement en recoupement, à mener cette enquête. Alors, je dois dire que Maurice Benoît a joué un très grand rôle là-dedans, parce que, comme il est membre de l'association de Courriot, il connaît beaucoup de monde et il a pu faire des recoupements comme ça. En 2008, quand on a fait la journée d'études, on avait fait intervenir la petite fille de Victoria Flatet, qui est ici, là. Je dois dire que Claire Flatet est la première historienne à avoir fait un travail d'historien, puisqu'elle a fait un mémoire en 1991 sur la grève de 1948. C'est le premier travail universitaire. Je dirais que le nôtre est le second.
On voit sa mère, là, donc sa grand-mère qui a participé au mouvement aussi, parle des mineurs, des ouvriers.
Elle fait partie de l'Union des femmes françaises, et qui, avec l'Union des jeunes filles de France, donc qui étaient des organisations périphériques du Parti communiste, a organisé les efforts de solidarité, beaucoup, auprès des mineurs. C'est des femmes qui, donc, voyaient bien concrètement la vie qu'enduraient les familles de mineurs pendant cette grève.
Donc dans
ce livre, on a publié. Alors, on a des photos. Je ne sais pas si je peux m'approcher du. On a toute une série de photographies dont on n'a pas retrouvé les originaux, mais qui sont extraites de la presse. Donc ici, vous voyez, ça, on sait que c'est une photo de Le Ponce parce qu'il n'y a que lui qui a. Donc ça, c'est tiré de la presse. Donc on les a insérées parce qu'elles nous aident à comprendre le développement. Celle-ci aussi. Là, on a des visages qui sont quand même extrêmement significatifs des angoisses qui régnaient. Ici, voilà, un exemple. Alors, ce n'est pas Victoria Flatet, mais c'est une autre femme de l'Union des femmes françaises. Elle, ici, on la retrouve justement sur la photographie. Là.
D'accord.
Ici, donc, comment le patriote organisait des collectes de nourriture dans les fermes autour de Saint-Étienne, dans la Haute-Loire, tout ça.
Voilà. Simplement, peut-être on va terminer avec quelques infos pratiques. C'est un très bel ouvrage, grand format, Beau pavé aussi, combien de pages constitue le compose
505 pages.
505, avec beaucoup d'illustrations, donc de photos de Léon Leponce.
Il y a plus de 200 photos. Et il y a donc pour les lecteurs, il y a une partie, disons qu'on a été préoccupé, on a cherché à faire en sorte que le lecteur puisse se retrouver. Je cherche, donc ici c'est peut-être pas le meilleur, mais voilà. On a fait des plans originaux, il y en a des plus significatifs. Ici, par exemple, pour la Béraudière, on a pris, situé les angles de vue qu'avait choisi Leponce pour faire ses photos. Et puis, on a fait aussi un travail intéressant de reconstitution de certaines personnalités. Par exemple, cette tablée à la Béraudière, on a retrouvé.
Tablées, vous avez réussi à réidentifier.
Voilà, 19 personnes sur une quarantaine, dont on a retrouvé les noms. Même chose pour le fameux portail, le piquet de grève. Là, on a retrouvé aussi des noms. Donc, pour ça, on pense qu'on a quand même un peu atteint notre objectif, qui était de mettre des noms sur ces photographies, de ressusciter un peu cette mémoire ouvrière. Ce sont des anonymes. Quand on a des photographies du gouvernement, on sait qui est là. Là, notre souci, c'était de dire bah, là, ce sont des êtres humains aussi, et ils ont droit à exister, à s'inscrire dans l'histoire, avec leur nom.
Révoltés de dégoût, de misère, par milliers unis dans les grands puits, les mineurs ont clamé leur colère pour la grève, alors ils ont dit oui.
Et forcément, on termine avec « Salut à toi, mineur de France », écrit par Gabriel Mariton, comme le précisait à l'instant Jean-Michel Sanner durant cet entretien, réalisé en octobre dernier à l'occasion de la parution de cet ouvrage « 1948, les mineurs stéphanois en grève », co-écrit par Jean-Michel Steiner, Corinne Porte, Jean-Claude Moineret et Maurice Bedouin, qui a également participé à la réalisation de cet ouvrage, qui fera l'objet, je vous le rappelle, d'un diaporama des clichés de Léon Leponce, consacré à cette grève des mineurs de 1948, commenté par les auteurs du livre, donc publié aux presses universitaires de Saint-Étienne, et qui devrait d'ailleurs rééditer suite à son succès grandissant. Ce sera samedi soir à partir de 18h-19h au cinéma Le France, dans le cadre de cette fin de semaine un peu particulière consacrée aux luttes ouvrières d'hier et d'aujourd'hui, luttes sociales, histoire et actualité pour ce samedi 21 janvier. Une pause buffet sera proposée avec signature du livre par les auteurs à l'issue de ce diaporama pour ce samedi soir, qui se bouclera avec la projection là de luttes beaucoup plus d'actualité, passée mais beaucoup plus fraîche si l'on peut dire ainsi. Ce sera la projection du film Grand Puits, Petite Victoire, un film d'Olivier Hazan sur les grèves de 2010 dans les raffineries, sur les grèves de 2010 consacrées, enfin qui relevaient de la mobilisation contre la réforme des retraites alors. Un film qui décrypte l'actualité, la propagande, le rôle discrètement crapuleux des principaux médias aussi, le mouvement en train de se constituer, de se construire, et puis la stratégie patronale en face aussi comme réponse. Ce sera donc tout le menu proposé par le Grémos ce samedi à partir de 18h jusqu'à 23h, et puis je le rappelle, la veille, autour des femmes de Manu France, donc là peut-être davantage destinée aux étudiants et aux lycéens en option cinéma, mais néanmoins ouverte à tous. Ce sera à 14 et 18h vendredi 20 janvier autour des femmes de Manu France, en présence de Marie-Ange Poyet, réalisatrice de 5 entretiens avec d'anciennes salariées de Manu France, donc toujours au cinéma Le France, donc c'est 20 et 21 janvier. Pour terminer encore sur la grève de 48, je rappelle bien entendu Léon Leponce et la grève des mineurs de 48, le regard d'un photographe engagé fait également l'objet d'une exposition de photographie qui est présente au musée de la mine de Saint-Étienne jusqu'en avril prochain. Et puis on parlera encore de mémoire et lutte ouvrière, puisque ce sera au programme du prochain festival Avatarium, donc d'ici peu, en ce début d'année 2012. C'est la fin de ce programme réalisé en partenariat avec le Grémos, comme je vous le disais, un programme que l'on va essayer de vous proposer de manière régulière et à fréquence mensuelle, donc un jeudi par mois, autour de ces mémoires ouvrières. Sur ce, très belle fin de journée, belle fin de semaine à vous. Ciao, bye.
Marchant pleine lumière sur la route de ta belle histoire, dans les gares, dans la Loire.